Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Blaise Chindani.
Au sommaire de ce journal, tête à tête hier au palais de l'Élysée entre les présidents congolais et français. Au menu, la guerre d'agression dans l'est de la RDC et le point sur la prochaine candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'OIM. 8 ans après la marche des catholiques du 25 février 2018 à Kinshasa, retour sur un mouvement qui avait coûté la vie à Rossi Mukendi et avait fait plusieurs blessés. Témoignage d'un survivant de cette journée marquante de l'histoire politique récente du pays. À suivre dans quelques instants. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, sollicite au gouvernement congolais une mise en œuvre échelonnée du deuxième palier du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. L'appel a été lancé mardi 24 février par John Mwenda, chargé de la cellule du Conseil national du travail à la FEC. Ce thème était au centre de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir. Vous allez suivre tour à tour les intervenants à cette émission animée par Guy Matetsongo. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal du matin. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu ce mercredi avec son homologue français Emmanuel Macron au palais de l'Élysée. Selon le compte X de la présidence congolaise, cet échange a réaffirmé l'engagement de la France au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC dans un contexte de la sécurité préoccupant caractérisé par l'occupation militaire rwandaise de certaines localités de l'est de la RDC. Les discussions ont également fait le point sur la prochaine candidature de la RDC au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, indique la même source. Au Nord Kivu, pendant ces temps, les combats opposant les mouvements rebelles AFC M23 aux coalitions Wazalendo alliées à l'armée congolaise continuent de s'intensifier dans les territoires des Massissi et des Calais. Selon plusieurs sources locales, les affrontements de ce mercredi se sont concentrés dans les villages de Kasseni, groupement Kibabi Premier, ainsi qu'à Mahanga, en groupement Nyamaboko Premier. Les rebelles auraient lancé une contre-offensive après la reconquête de plusieurs positions par les forces gouvernementales. Les détails avec Élisée Chikota.
Depuis tôt ce mercredi, des fortes détonations d'armes lourdes et légères sont signalées à Mahanga, dans la localité de Busiki. Mardi soir déjà, la coalition des Wazalendo alliés FARDC avait reconquis les villages de Kazinga et Ndete. Nos sources affirment que les miliciens tentent désormais de reprendre l'ensemble de cette entité afin de poursuivre leur progression vers Massissi Centre. Parallèlement, d'autres sources signalent une contre-attaque de l'AFC M23 contre les Wazalendo à Kasseni, en groupement Kibabi Premier. L'objectif serait notamment de bloquer l'avancée des forces pro-gouvernementales en direction de la cité minière de Rubaya, qui demeure sous leur contrôle. Ces affrontements, qui marquent ce mercredi leur 10e jour consécutif, aggravent la crise humanitaire dans la région. La majorité des habitants de Kasinga, Ndete, Shungi, Kaniro et environ avaient déjà fui leur village. Depuis ce matin, ce sont les habitants et plusieurs éleveurs de Mahanga qui quittent à leur tour la zone par crainte de combat. À Rubaya, la situation reste extrêmement tendue depuis qu'une position rebelle a été ciblée mardi aux environs de 3h du matin par une frappe aérienne des FARDC. Là aussi, certains habitants ont fui, redoutant d'éventuelles représailles, indiquent nos sources.
Entre-temps, dans le cadre de leur démarche sur la mise en œuvre de la Commission Vérité et Réconciliation, le président du Conseil interreligieux congolais poursuit ses consultations. L'archevêque Dodo Kamba, qui a rencontré ce mercredi le parti Nojek, a affirmé qu'il n'entend nullement rencontrer l'AFC M23 sans l'accord du président de la République. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Vous savez que partout nous passons, nous écoutons tout le monde sans s'opposer. C'est l'élégance. Tout le monde parle. Mais sur cette question de pouvoir aller à Goma rencontrer les autres, ça a été évoqué plusieurs fois depuis les débuts de la démarche avec le professeur André Mbata. pour le compte de l'Union sacrée. On m'avait posé cette question, donc j'ai déjà répondu. J'ai dit que notre travail consiste à échanger à tous ceux qui sont concernés dans le conflit, mais je le dis clairement, pour aller à Goma rencontrer les autres, il faudrait au préalable que nous ayons l'autorisation des chefs de l'État. On ne peut pas se permettre de faire comme ça. Mais si quelqu'un nous le rappelle, nous apprécions énormément cette manière de faire. Mais nullement dans notre tête de pouvoir traverser les limites sans en avoir l'autorisation. Et en plus, nous voulons rassurer à tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin, que nullement dans notre tête d'entraver ou de nous opposer à l'initiative du chef de l'État ou encore au travail qu'il a déjà entamé.
Et puis, un monument a été érigé en mémoire des victimes des massacres de Bogoro, survenus le 24 février 2003 dans cette localité située à environ 25 km de Bunia en province de l'Ituri. L'édifice financé par les fonds au profit des victimes a été inauguré mardi sur les lieux même du drame en présence des autorités provinciales, de la déléguée de l'ambassade d'Allemagne et des responsables locaux de la Cour pénale internationale. Pour les représentants des victimes, ce geste traduit la compassion envers les familles de plus de 200 personnes qui ont perdu la vie dans cette tragédie. Le point dans ce reportage de Jean-Claude Lokidile.
Les massacres de Bogoro constituent l'un des épisodes les plus marquants du conflit interethnique en Ituri, laissant des nombreux survivants traumatisés. Pour Samson Bahoyere, représentant des victimes, ce monument symbolise l'espoir d'une province tournée vers la paix.
Puisse ce monument rappeler à tous que, même face aux épreuves les plus difficiles, la solidarité internationale et la volonté commune peuvent faire naître des symboles d'espoir.
Les massacres de Bogoro ont par la suite fait l'objet de poursuite devant la CPI. Pour Déborah Ruiz, directrice exécutive du Fonds au profit des victimes, ce mémorial vise à honorer la mémoire des disparus et à reconnaître la souffrance des survivants.
Conçu en étroite collaboration avec la communauté de Bogoro, le monument, c'est le témoignage de la résilience des survivantes et de leur volonté que ces crimes ne soient jamais oubliés.
Pour rappel, deux figures majeures ont été jugées dans cette affaire. Germain Katanga, ancien chef de la FRPI, condamné en 2014 par la CPI pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et Mathieu Ngoudjolo Tchoui, acquitté dans la même affaire, faute de preuves suffisantes. Bounia, Jean-Claude Loki, Guilé, Radio Okapi.
Je le disais en titre, 25 février 2018, 25 février 2026, voilà 8 ans depuis que la marche des catholiques a été organisée à Kinshasa. Une marche ayant entraîné la mort d'un militant catholique, Rossimo Kendichimanga, tué au cours de ce mouvement pacifique dans la commune de Lemba par les forces de l'ordre, selon les procès organisés en septembre 2018 à ce sujet. À la base, les organisateurs refusaient un troisième mandat pour l'ancien président de la République, Joseph Kabila. D'autres victimes ont été blessées dans d'autres communes de la capitale. Cas de M. Beawa Bea, catholique de son état, qui a été touché par balle et s'en est quand même bien sorti. Il nous relate les faits au micro de Nancy Atambo.
Le dimanche 25 février 2018, il y avait une marche de catholiques qui refusait le troisième mandat au président sortant Joseph Kabila. Lors de nos marches, il y a eu plusieurs mètres. Moi, j'ai eu une balle tirée sur moi à bout portant à l'église Saint-Hélène de Bon Marché. Parce que on avait marché ce jour-là, c'était parce que la population souffrait pour faire barre aux politiciens, afin qu'ils puissent quand même voir comment penser à la nation congolaise. Nous demandons que les autorités de la RDC, ce qui s'est passé le 25 février 2018, je veux pas que ça puisse encore se reproduire. C'était le problème de la Constitution. On ne veut pas qu'un Congolais puisse 3 ou 4 mandats. C'est sur 2 mandats, c'est ça que la Constitution demande.
La constitution actuelle est meilleure, mais pas intouchable. C'est l'une des principales déclarations du professeur André Mbata ce mercredi 25 février lors d'un colloque scientifique organisé au Pullman Kinshasa, initié par la fondation Konrad Adenauer à l'occasion des 20 ans de la constitution. Cette rencontre a réuni autour d'une même table des acteurs politiques et des experts issus des divers horizons. Objectif, identifier à travers un débat contradictoire les forces et les faiblesses du texte fondamental. Chaque camp, majorité comme opposition, a saisi l'occasion pour défendre sa position sur la question d'une éventuelle révision constitutionnelle. John Chibobwa.
Le débat a été particulièrement animé, les intervenants s'opposant sur l'opportunité d'une révision ou d'un changement de la Constitution. Pour André Mbata, député national et cadre de l'UDPS, aucune Constitution n'est immuable.
Comparativement à la loi fondamentale qui était une loi belle, celle-ci est meilleure que toutes ces dispositions-là. Mais je n'ai jamais dit qu'elle était intouchable. Une Constitution éternelle n'existe pas. La dernière décision dans tout ce que nous faisons, elle appartient au peuple et toute modification doit se faire dans l'intérêt du peuple.
De son côté, Devoski Toko, cadre de l'ECID, estime que la révision ou les changements de la Constitution est inopportun.
Quelle est la disposition de cette Constitution qui empêche le régime de Kinshasa d'améliorer les conditions sociales des Congolais? Laquelle des dispositions de la Constitution ne permet pas de récupérer les villes, les territoires et les localités occupées par l'armée rwandaise? La priorité des priorités aujourd'hui, c'est l'organisation d'un dialogue national inclusif pour fédérer les énergies nationales afin de défendre l'intégrité de notre territoire.
A noter que les représentants du FCC, de l'Ensemble pour la République et de LGD ont quitté la salle, reprochant aux organisateurs l'absence des décideurs autour de la table.
Le programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savanes et des forêts dégradées, PSFD, doit appuyer davantage le ministère de l'Agriculture pour la recherche de fonds additionnels par rapport aux besoins qui sont très immenses sur le terrain. C'est l'une des recommandations prises à l'issue de la 6e réunion du comité de pilotage tenu mercredi 25 février à Kinshasa. Selon le ministre d'État à l'Agriculture qui a lancé ses travaux, la dégradation des forêts a comme acteur principal l'agriculture et donc on ne peut pas envisager une réponse sur la réforestation si l'agriculture ne joue pas un rôle fondamental. On écoute Muyindo Nzangi, ministre d'État à l'Agriculture, au micro de Radio Okapi.
La dégradation des forêts a comme acteur principal l'agriculture et donc on ne peut pas envisager une réponse sur la réforestation ou l'arrêt de cette dégradation forestière, si l'agriculture ne joue pas un rôle fondamental. Les 8 millions que nous avons obtenus, nous disons merci. Mais je continue à vous dire que par rapport aux défis que nous avons, ça reste très minime. Parce que rien que pour le gouvernement, nous sommes en train d'aller dans des proportions encore beaucoup plus importantes. J'espère que vous êtes au courant que pour cette année, nous sommes en train d'établir des grands pépinières communautaires dans des territoires et dans chaque territoire, c'est 200 000 plantilles de café et de cacao, et c'est d'autres plantes de palmiers. Nous croyons que cela va aider déjà à se réapproprier ce qui s'y paraît. Et c'est pour cela que nous voulons que le modèle qui a été développé par les PSFD, qui est un modèle innovant, un modèle complet, qui intègre à la fois des agrégateurs qui permettent effectivement à ces communautés qui vont planter cacao, qui vont planter café, qui vont planter palmiers, de pouvoir avoir à côté de quelqu'un pour les soutenir, qui pourra racheter et qui pourra faire la belle transformation autour.
Notez que cette 6e réunion du COPIL a ciblé deux provinces, à savoir le Kwilu et la Tchopo. Dans le même registre, au Maniema, le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire dit poursuivre la mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui appelle à la revanche du sol sur les sous-sols. Une délégation gouvernementale séjourne dans la province pour sensibiliser les producteurs agricoles à la création des coopératives. Florence Kizalunga pour le reportage.
Mardi 24 février, l'équipe du ministère de l'Agriculture a rencontré plusieurs associations agricoles du Maniema. Objectif, encourager les producteurs à se regrouper en coopérative afin de bénéficier plus efficacement de l'appui du gouvernement. Selon les organisateurs, cet appui n'est pas destiné aux individus, mais aux structures collectives jugées plus adaptées à assurer une production durable et mieux organisée. Julien Landou, membre du secrétariat au ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire.
Le but de ces sensibilisations, c'était de savoir quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'ils plantent, qu'est-ce qu'ils mangent, puis les sensibiliser surtout à devenir des coopératives. L'avantage est que les financements, l'assistance, ça sera plus facile.
Les associations agricoles qui adhèrent à cette vision souhaitent que ces processus soient matérialisés. L'un d'eux, c'est Joseph Lusangi.
Nous acceptons l'information et puis nous recommandons que le processus de transfert soit écourté et moyennant moins de coûts pour que nos associations soient comme des coopératives.
Pour rassurer les associations, le directeur des ressources humaines du ministère, Kabingwa Bundia, a affirmé que les démarches administratives seront facilitées afin de permettre la création rapide de ces coopératives. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Malgré les secousses sur le plan international et les frictions avec les États-Unis, l'économie sud-africaine connaît quelques embellies. Le ministre des Finances en est réjoui mercredi 25 février 2026 lors de son discours sur le budget devant le Parlement, même si la route est encore longue afin d'obtenir une économie plus solide et une diminution du chômage qui touche plus de 30% de la population.
L'invité.
La Fédération des entreprises du Congo, FEC, sollicite du gouvernement congolais une mise en œuvre échelonnée du deuxième palier du SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti. L'appel a été lancé mardi 24 février par John Mwenda, chargé de la cellule du Conseil national du travail à la FEC, lors d'un entretien exclusif accordé à Radio Capi. Cette réaction intervient juste après la clôture, le vendredi 20 février, des travaux du Conseil national du travail, CNT. Ce thème était au centre de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir. Suivez les réactions des intervenants au micro de Guy Matetiongo.
John Mwenda, vous êtes chargé de la cellule SMIG, la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement qui demande aux employeurs de payer le deuxième palier du SMIG qui est fixé à 21 500 francs congolais par jour?
Les revendications sont simples. On ne refuse pas le 21 500. Nous avons simplement demandé, allons-y par palier. Nous avons déjà fait un gros effort en appliquant 14 500. On est d'accord d'appliquer dès janvier 2026 16 500. Nous sommes d'accord d'appliquer 19 500 dès le mois de juillet 2026 et nous chuterons en janvier 2027, après une brève évaluation, à appliquer 21 500. Tout cela, nous sommes d'accord. Ça, c'est pour les autres secteurs. Mais il y a un secteur particulier qui est le secteur de l'agro-pastoral et forestier. Vu que nous parlons d'un secteur qui est complètement sinistré, la demande de la FEC et de toutes les corporations patronales, la demande, elle est simple. C'est un secteur qui est sinistré, qui n'a pas de subvention. Les allègements qui étaient promis depuis près de 25 ans ne sont pas encore en place. Ce que nous avons demandé, et je pense que la partie gouvernementale et la partie syndicale, nous tous, nous étions d'accord que nous étions pour les allègements. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pendant que les allègements ne sont pas là? C'est comme ça que, pour sécuriser les entreprises, car les contrôles vont reprendre, on ne veut pas que les entreprises se retrouvent en porte-à-faux avec l'inspection générale du travail, nous avons demandé un moratoire, que ce secteur continue à rémunérer ses agents tels qu'il le faisait, parce que ce secteur, même les 14 500, aujourd'hui, c'est un secteur qui ne peut pas appliquer. Si ce secteur applique, c'est un secteur d'abord qui est tellement effrité, on risque simplement de voir ce secteur disparaître complètement. Donc nous avons demandé un moratoire pour ce secteur en attendant les allègements et nous avons aussi demandé l'instauration du SMAC tel qu'il se fait dans plusieurs pays comme le Maroc, le Mali, le Cameroun, il y a plusieurs pays, la Côte d'Ivoire, des pays qui progressent, des pays qui produisent de plus en plus. N'oublions pas que nous parlons du secteur qui a le plus gros potentiel de création d'emplois dans notre pays. Donc nous devons traiter ce secteur avec délicatesse et nous assurer que tout ce que nous allons prendre comme mesure vont aider à la création d'emplois.
Donald Bagula Mugangu, vous êtes secrétaire général de l'Emploi et Travail. Comment vous réagissez à cette proposition de la FEC qui demande l'application de manière échelonnée du deuxième palier du SMIG?
Nous avons longuement discuté de toutes ces questions la semaine dernière. Son Excellence Madame la Première Ministre a reçu la Fédération des entreprises du Congo ainsi que les autres partenaires sociaux pour discuter de cette question et a estimé que il fallait rentrer autour de la table pour discuter de cette question entre parties.
Est-ce qu'on peut retenir que les employeurs ont déjà commencé à payer depuis le mois de janvier 2026 les 21 500 francs congolais par jour ou ils n'ont pas encore commencé à payer parce que les parties n'ont pas encore trouvé un compromis?
Non, un bon nombre d'employeurs payent déjà assez tôt là.
Les 21 500 francs congolais.
Effectivement. Il y a des entreprises qui payent, mais il y a des entreprises aussi qui ont des difficultés pour payer assez tôt là.
Et par rapport à ces entreprises qui ont des difficultés, qu'est-ce qui est prévu par le gouvernement?
Et c'est ce que j'ai dit. Donc, on doit les remettre au sein de l'entreprise, parce que l'entreprise connaît les difficultés qu'elle traverse, s'asseoir avec sa délégation syndicale pour voir jusqu'à quel niveau ils peuvent déterminer la tension. Le SMIG est fixé, qui est de 21 500, puisqu'il est du domaine de la loi, est fixé de manière réglementaire. Mais l'entreprise peut s'asseoir et déterminer, nous payons le 21 500 comme salaire plancher, au moins moins 10 ans, donc au moins payés, et déterminer jusqu'à quelle hauteur ils peuvent fixer pour les autres catégories.
Polydor Tangeli, vous êtes expert en matière de travail et analyste indépendant. Et à votre avis, comment peut-on concilier justice sociale et viabilité économique?
Bon, en renforçant un dialogue sincère entre les parties, de manière à ce qu'ils agissent à l'unisson, tout en sachant qu'il n'y aura pas de compromis sans compromission de la part du gouvernement qui tient à réformer les choses, de la part de l'entreprise qui tient à ses intérêts, coûte que coûte, et de la part du banc syndical qui est en disharmonie avec les structures opérationnelles dans les entreprises. Il faut-il ici dire que le CNT ne devra pas produire des décisions qui vont au contre-courant des réalités des terrains.
Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net et c'est par là que nous mettons un point final à ce journal du matin. Merci de nous avoir suivis.